OK. Alors, ben merci, merci de votre accueil, merci. Là, vous me demandez un tour de force, parce que je sais, après avoir mangé un samedi après-midi, je suis sûr que il y en a qui vont peut-être dormir, mais je vais vous réveiller. Bon. Alors, je suis Jean-François Morin. Puis, j'ai 44 ans. Je sais que j'en ai pas l'air. Mais c'est ça. Et je suis curé à Bourgette, puis à Saint-Pascal-Bellon depuis ça fait 4 ans, 4 ans complets. Alors, on m'a demandé de vous dire un petit peu bon, mon cheminement, pourquoi que je suis devenu prêtre, puis comment est-ce que j'ai pu voir dans ma vie les appels du Seigneur. Bon, peut-être pour commencer, je m'en vous dire tout de suite, je suis un gars ordinaire, moi, là. Je suis un gars bien ordinaire. Puis j'ai deux sœurs. Puis si mes deux sœurs étaient ici avec vous autres, là, je pense qu'elles diraient la même affaire que moi. Je suis un gars ordinaire. Puis je suis sûr que si mes deux sœurs, si je leur passais le micro, là, cet après-midi, là, elles feront pas, là, mais elles sont pas ici. Joanne, Chantal, elles vous diraient des affaires que, ah oh, oui, il a fait ça, lui, puis il est prêtre aujourd'hui. Bon, heureusement qu'ils sont pas ici, là. Bon, alors, je vais vous raconter un petit peu. Alors, je suis un petit gars d'Ottawa. J'ai grandi dans la basse ville d'Ottawa. J'ai deux sœurs. Je suis au milieu. Alors, je suis l'épine entre deux roses, ou la rose entre deux beaux rosiers. Alors, c'est à vous de choisir. Alors, moi, ma vocation pour être prêtre, ben, tu sais. Ça s'est fait en douceur. Il y en a que c'est peut-être autrement. Je pense qu'on a chacun notre propre histoire sainte. Toi, tu as la tienne. Moi, j'ai la mienne. On a tous une histoire sainte. Dieu est présent dans nos vies. Puis Dieu nous fait des signes. Dieu est présent. On vient de le chanter, envoie l'Esprit Seigneur dans nos cœurs. L'Esprit du Seigneur est dans chacun de nos cœurs. Puis il est agissant. Des fois, je ne le vois pas à l'œuvre, mais c'est correct. Dieu est patient. Puis Dieu a un projet pour nous tous. On n'est pas sur terre juste comme ça, là, mais on a tous quelque chose à porter. On a tous quelque chose à devenir aux yeux du Seigneur. Alors moi, ce que je vais vous raconter, là, alors ce que je vais faire, je vais vous dire un Je vais parler un petit bout de temps, puis après ça, je vais vous laisser la chance de poser des questions. Êtes-vous d'accord? Oui? Je pense que j'ai jusqu'à 2 heures et quart, à peu près. Alors, je vais parler pour 20, 20, 25 minutes, 30 minutes, puis après ça, je vais vous laisser la parole. OK? Alors, moi, dans ma vie à moi, il y a eu des événements qui m'ont beaucoup marqué. Puis quand je mets tous ces événements-là ensemble, là, un à la suite de l'autre, c'est là que j'ai vu ma vocation à servir l'Église et le monde comme prêtre. La première chose qui est arrivée, je me souviens comme si c'était hier, et pourtant j'ai 44 ans, je suis sur l'autre côté du versant, alors. Alors, je me souviens, j'avais 5-6 ans. Ça fait longtemps de ça, mais je me souviens très, très bien comme si c'était hier. Alors, moi, mon père, on vient d'une famille. Normal, hein? Pas plus catholique qu'une autre, là. Mes parents, c'est des croyants profonds. Mon père, lui, travaillait le soir. Il travaillait à Ottawa, dans ce temps-là, il y avait la O'Keeffe. Tu sais, la bière, la O'Keeffe, là? Ben, la compagnie était à Ottawa, dans ce temps-là. Là, maintenant, elle est à Toronto. Alors, mon père, lui, travaillait le soir. Maman travaillait le jour. Alors, mes parents, ils se voyaient seulement le week-end. Parce que quand papa arrivait de travailler, maman était au lit, puis quand ma mère arrivait de travail, ben mon père partait. Alors, c'est quelque chose, hein, quand je pense à ça aujourd'hui, puis on t'a fait ça pendant des années, hein. Il y avait de l'amour là-dedans, là. Bon, alors moi, un soir, je monte dans la chambre de ma mère. J'avais 5-6 ans à peu près. Puis, là, mon père n'était pas là, mes deux sœurs, je ne sais pas où elles étaient. Alors, je rentre dans la chambre de ma mère, mais là, je suis rentré sans frapper à sa porte. Puis là, j'ai eu le choc de ma vie. Non, c'est pas ce que tu penses, là. C'est pas ça. No. C'est pas ça. Alors, je rentre dans la chambre de la mère, comme ça, comme un coup de vent. Puis là, je vois ma mère qui était à genoux, en train de prier, au pied de son lit. Je savais ce que ma mère était en train de faire, parce que le dimanche matin, on allait à la messe, puis je voyais ma mère qui était à genoux comme ça, puis elle priait avec papa, puis moi je les regardais, puis je faisais comme eux, c'est à l'église, hein, bon. Puis je savais qu'elle était en train de prier. Mais moi j'avais 5-6 ans, puis là tu sais, pour un petit gars de cet âge-là, ta mère c'est quelqu'un de très important, c'est elle qui prend soin de toi. C'est elle qui me console, c'est elle qui me lave, c'est elle qui m'écoute, c'est elle qui me caresse. Tu sais, ma mère, elle venait me dorloter dans mon lit avant que je m'endorme. Bon, tu sais, ma mère c'était comme Dieu là. Tu sais, c'est quelqu'un. Hein, c'est pas n'importe qui. Puis là, la voir comme ça, à l'église, on dirait que c'est correct parce que il y a bien d'autres mondes. Tu sais. Mais là, d'avoir toute seule dans sa chambre en train de prier, je dis, hey, wow, c'est spécial. Puis là, dans mon cœur, j'avais 5-6 ans, je me suis dit, ben, m'en faire comme elle. Je vais faire comme elle parce que ma mère est importante pour moi. Puis je vais faire comme elle parce qu'elle a une place importante dans mon cœur. Puis je voulais prier moi aussi comme elle. Là, je sais pas ce soir-là ce que j'ai fait, ça je m'en souviens pas, mais je me souviens que dans mon lit, ben avant de me mettre au lit, je me mettais à genoux dans mon lit, puis je priais pour faire comme ma mère. Là, je pensais pas à devenir prêtre là tout de suite, là. Mais pour dire tout de même, tu sais, bon, il y avait quelque chose de spécial pour moi à ce moment-là. C'est Dieu passe à travers les personnes qui nous sont le plus chères. Hein. Bon, ma mère, c'était quelqu'un de bien spécial. Puis là, j'ai grandi un petit peu, puis j'ai commencé à servir la messe à la paroisse chez moi. Puis j'aimais bien ça, servir la messe, pour la simple et bonne raison que dans la paroisse Sainte-Anne, à Ottawa, je sais pas, vous connaissez ce coin-là? Juste en face de l'école secondaire de La Salle, hein? Alors, c'est dans cette église-là que j'ai été baptisé. Alors, dans cette église-là, il y avait, dans l'église, un immense orgue. Puis, il y avait une personne qui jouait de la musique, puis c'était très, très beau. Puis moi, j'ai toujours aimé la musique. Puis je me souviens, j'étais petit gars, puis à l'église, puis ça... Quand ça grondait, là, c'était fantastique. Puis quand je suis devenu servant de messe, ben des fois, je servais la messe pour deux fois le dimanche matin. Puis j'entendais l'orgue plus longtemps, puis j'aimais bien ça. Puis à ma première communion, mes parents m'ont offert un beau gâteau. Puis mon père, lui, vu qu'il travaillait à la O'Keeffe, lui, il avait, tu sais, après 10 ans de service, l'employeur donne toujours des petits cadeaux hein, aux employés. Lui, mon père, avait reçu, lui, une coupe, une chope, tu sais, une chope de bière, tu sais, pour boire la bière, une grosse coupe avec l'écusson, là, de O'Keeffe dessus, bon. Puis là, ma mère, elle a pris cette coupe-là, c'était comme une grosse coupe, elle a peinturé ça en doré, faire une coupe comme pour la messe, là. Puis elle a pris une de ses assiettes de cuisine, puis elle a peinturé ça en doré, puis c'est la coupe, la patène, c'est le vin, et le pain, c'est le sang et le corps du Christ. Ce sont les symboles de l'Eucharistie. Hein? Alors, elle a mis ça près de mon gâteau. Puis, c'était pour célébrer ma première communion. Mais moi, cette coupe-là, cette patène-là, cette assiette-là, je les ai gardées. Puis, dans ma chambre, ben, je jouais à la messe avec ça. J'ai une photo de moi avec ça, hein, j'en ai apporté. Puis, on avait un garage en arrière, chez nous, puis j'avais une petite voisine à côté. Elle s'appelle Sylvie Charette. Sylvie Charette est née le 23 septembre, comme moi. Puis on a-tu le même âge? Non, je suis née un an avant elle. Puis moi, j'ai toujours dit à Sylvie, quand je serai vieux, je vais te marier. Tu sais, parce qu'on était, bon. Puis elle venait dans le garage avec moi, puis avec d'autres amis du coin, puis on jouait à messe. Puis j'avais pas du pain, j'avais des cubes de sucre, tu sais, des petits carrés de sucre. Ça, c'était blanc comme du pain, bon. mais c'est un meilleur un peu. Puis dans la coupe, ben je mettais du Cool Lake. Tu sais, du Cool Lake, là? Cool Lake, c'est bon. Bon. Alors j'avais du Cool Lake rouge, du Cool Lake cerise. Alors là, tu comprends bien que c'était le fun de jouer à la messe, hein? Hey, du sucre puis du Cool Lake. Bon. Puis les messes, c'était pas ben longue. Ça a changé, hein? Bon, pas de commentaire. Alors c'est ça. Alors, mais à l'âge de 13 ans, il est arrivé un autre événement dans ma vie. Là, je pensais-tu d'être prêtre à ce moment-là? Non. Non, je pensais pas d'être prêtre. Non, je pense que je vais être pompier, je pense. Pompier ou policier, à cause de... Ben, comme tout le petit gars. À 13 ans, il est arrivé un autre événement dans ma vie qui a été très, très marquant. C'est à ce moment-là que moi, j'étais un gars très timide. Ça paraît pas, mais je suis encore. Mais je me donne une coupie dans le derrière. Bon. Mais quand j'avais 12-13 ans, j'étais timide au point tel que je bégayais. Même des fois, je bégaye encore quand je suis nerveux. Bon. C'est drôle, je bégaye pas, là. Hein? Bon. Alors, à 13 ans, il est arrivé quelque chose. Puis moi, j'étais pas un sportif. J'allais à une école de gars. Les gars étaient sportifs. Moi, j'étais plus ou moins sportif. Puis, j'étais timide. Et là, j'ai réalisé que un matin, je me suis levé. Puis, dans le salon, chez nous, on avait un piano. Ma mère a joué du piano. Mais moi, j'avais jamais touché le piano. Juste pour bagner dessus, là, juste pour taper dessus, mais pas vraiment. Ma mère, des fois, elle jouait le dimanche après-midi, puis elle jouait bien, puis elle chantait aussi. Ma mère, elle chante tout le temps. Elle chantait tout le temps. Ma mère est décédée il y a 3 ans passés. Mais là, à 13 ans, je dis, tiens, je vais prendre des cours de piano. Parce que ma mère, elle jouait du piano. C'est là, c'est encore l'idée que faire comme ma mère, c'est bon, 13 ans. Alors, j'ai commencé à prendre des cours de piano, puis là, pour moi, ça a été comme une révélation. C'est comme si, à travers la musique, je pouvais m'exprimer. Moi qui avais de la misère à m'exprimer, parce que je bégayais, puis j'étais timide, j'étais un petit gars bien tranquille à l'école, mais pas à la maison, là, c'est un moment donné, il faut se défouler quelque part, hein, mais à l'école, j'étais un premier de classe, j'étais bon. Mais à travers la musique, c'est comme si, là, j'avais trouvé le moyen de m'exprimer. Puis là, je pratiquais pas juste une demi-heure par jour, là. Vraiment, j'étais mordu. Je pratiquais des fois 1 heure, 2 heures par jour. Puis là, j'étais en 8e année. Puis quand je suis rentré à l'école de La Salle, en 9e année, alors là, je suis allé voir le directeur, Maurice Lapointe, à l'époque. Puis là, j'ai dit à M. Lapointe, frère Maurice, c'était un frère, j'ai dit, frère Maurice, je pourrais-tu arriver de bonne heure le matin? Les concierges, eux autres arrivent de bonne heure. Puis, il y avait un piano dans l'auditorium. Je pourrais arriver de bonne heure le matin, puis pratiquer. Tu sais, pratiquer à 7h le matin, 7h30, 8h chez nous, là. Tu sais, ça marchait pas trop tôt avec mes soeurs, à 8h le matin. Là. Mais là, j'arrivais de bonne heure. Puis là, je pratiquais. Puis quand j'ai quitté l'école secondaire, je me suis inscrit en musique à l'université. Et là, j'ai fait un bac en musique. J'étais professeur de piano. Hein? Puis là, tu vas me dire, ouais, mon Dieu, tu parles pas de la prêtrise trop, toi, là. Mais là, quand j'étais au secondaire, là, ben là, à la paroisse du centre-ville d'Ottawa, à la paroisse Christ-Roi, ils cherchaient un organiste. Ah, puis moi, j'avais besoin d'un peu d'argent. Puis les autres, ils payaient les organistes. Ils payaient pas beaucoup, mais ils payaient. Alors, je suis allé voir le curé, Jacques Fauché, qui est toujours prêtre, tu connais, hein, Jacques Fauché. Alors, Jacques était beaucoup plus jeune à l'époque. Moi aussi. Alors, j'allais voir Jacques. Puis là, finalement, j'étais organiste à la paroisse du Christ-Roi. Puis Jacques, c'était un bon gars. Puis j'ai appris à le connaître. Puis là, je jouais de l'orgue le dimanche. Puis je le voyais des fois durant la semaine pour préparer les chants. Qu'est-ce qu'on va jouer dimanche prochain? Quel chant? Puis là, il me disait, ben là, François, on va voir l'évangile du jour. OK. Ben, l'évangile, on va lire les textes de la parole de Dieu de ce dimanche-là pour voir quel chant prendre, tout ça. Puis là, finalement, j'ai appris à connaître c'est quoi un prêtre. Puis je sentais heureux, cet homme-là, comme prêtre. Puis j'aimais ça, l'entendre dans ses sermons, dans ses homilies. Je trouvais que ça me rejoignait, puis je trouvais qu'il parlait avec son cœur. Puis l'église du Christ-Roi, peut-être tu la connais pas, là, mais c'est une église qui est plus petite que la salle ici. C'est une petite église. Je pense que c'est à peu près ça. Ouais, tout petit. Puis il y avait un petit orgue à tuyaux, tout petit. C'est vraiment tout petit. Puis, en tout cas, c'était très intime, c'était familial. Puis j'ai beaucoup aimé cette paroisse-là durant les années où j'étais organiste. Puis là, Jacques, bon, il était pas marié. Il était célibataire. Je le sentais heureux comme prêtre. Je le sentais épanoui. Je sentais que Jésus-Christ, pour lui, était vivant. Puis il m'a interpellé. Puis, moi, j'avais une blonde dans ce temps-là. J'avais une petite amie. J'étais beau, j'étais jeune. Bon, tu sais, j'avais des petites amies. Mais je pensais que la prêtrise, je sais pas trop. Là, je suis rentré à l'université. Puis là, j'ai rencontré un homme extraordinaire. Un homme qui était mon professeur de musique, Jean-Paul Sivia, un Français. Puis Jean-Paul, lui, à un moment donné, ça, c'est un autre événement qui m'a marqué. Et ça, c'était un événement qui a été peut-être décisif dans ma vie. Jean-Paul, là, la prêtrise, oui, tu sais, j'y pensais un peu, je voyais Jacques, puis, à un moment donné, j'ai suivi une retraite aussi, là, je fais une petite parenthèse, j'allais voir une retraite. Puis j'avais dans la retraite, c'était viens suis-moi. Jésus qui on avait médité longuement sur un texte d'évangile où Jésus se promène sur le bord du lac. Puis là il appelle ses apôtres, c'est ça? Ses apôtres. Puis viens suis-moi. Puis moi j'ai dit waouh, ça se peut-tu ça? Tu sais, ce gars-là, on ne connaît pas plus que ça Jésus. Il a fait des miracles. Il n'était pas encore ressuscité Jésus là. Hein? Il était fascinant probablement, sûrement. Il a dû avoir un regard pénétrant. Il a dû être bien spécial. Puis là, il se promène sur le bord du lac, comme ça, puis là, il appelle un tel, toi, viens, suis-moi. Puis là, puis les apôtres, ils ont tout laissé, leur barque, leur travail, pour suivre Jésus. Puis là, j'ai dit, wow, ça se peut, c'est comme si moi, je me promenais sur la rue Rideau à Ottawa, puis là, il y a un gars qui passe, puis il dit, viens, suis-moi. Pensez que je vais tout laisser mes affaires pour le suivre. C'est bon. Mais ça m'a comme chicoté, ça. Dit, pourquoi ces gens-là ont suivi Jésus? Puis à force de méditer cette page d'évangile-là, on aurait dit que c'était à moi. Parce que les choses qui nous chicotent, là, c'est parce qu'il y a quelque chose pour nous, là. Les choses qui nous chicotent, là, il faut creuser ça, hein. Creuser les choses qui vous chicotent. Parce que il y a un appel, là. En tout cas, moi, ça me chicotait. Ça me dérangeait. Puis, on aurait dit que c'était à moi que Jésus me disait, viens, suis-moi. Ça m'a dérangé un petit peu. Puis là, à un moment donné, là, j'en viens à Jean-Paul Sivia, mon professeur de piano à l'université. Jean-Paul, c'est un gros bonhomme. Puis, on avait des cours privés. Puis, je me souviens, j'étais à une leçon de piano. Jean-Paul, c'est un Français. Il n'est pas ici, Jean-Paul, je peux le dire. De toute façon, je ne pense pas qu'il s'en gênerait trop, là. C'est pas un gars qui fréquente l'Église beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, je pense qu'il a été blessé. Il a eu des blessures. Puis là, Jean-Paul était dans le fond de son bureau, sur une chaise, avec des roulettes. Tu sais, des roulettes, là, tu sais, bon. Puis là, moi, j'étais au piano, parce que Jean-Paul, quand on jouait, il se mettait loin, il entendait mieux ce qu'on faisait. Il entendait mieux nos fausses notes. Alors là, j'étais au piano, je jouais. Puis là, à un moment donné, il m'a dit, arrête! Puis là, il s'est donné un coup de patte. Puis là, la chaise, puis là, il est arrivé près de moi. Puis là, je pensais qu'elle allait me dire des affaires. Ben là, t'as mis ton doigté est mauvais, ou t'as dû jouer plus doux, ou c'est ça. Puis là, il me regarde dans les yeux. Puis là, il me demande comme ça. Puis, jamais j'avais parlé à Jean-Paul de ce qui me chicotait, là. Tu sais, de mes affaires qui me chicotent, là. Tu sais. Je demande à Jean-Paul, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu m'arrêtes, là? Puis là, il me regarde dans les yeux. Puis il me dit, François, as-tu pensé d'être prêtre? Moi, je l'ai mal pris. Parce que là, je me suis dit, ça veut dire là que je joue comme une patate. Non, mais j'ai mal pris parce que, tu sais, on n'était pas là pour ça. Là. Moi, on était là pour, tu sais, pour apprendre le piano et la musique. Puis, je savais que Jean-Paul, bon, l'Église, tout ça, puis c'est un Français, tu sais, il ne gênait pas pour dire ce qu'il pense. Puis, c'est beau, c'est une qualité, il est transparent. Mais là, je l'ai mal pris parce que, tu sais, moi, je voulais faire une carrière de musicien. Je pensais à ça, puis je pensais à ça, être professeur de musique. Ça, je me voyais bien comme ça. Puis là, je dis, as-tu pensé d'être prêtre? Puis là, je dis, Jean-Paul, pourquoi tu me poses cette question-là? parce que je joue mal du piano? Non. C'est là que j'ai compris. Il m'a dit, François, je te vois faire. Oui. Tu n'as pas de blonde pour l'instant. Non, c'est vrai. Puis, je pense que tes amis t'estiment beaucoup. Tu es un homme d'écoute. Tu vas à l'église tous les dimanches. Tu joues de l'orgue. Puis, tu me parles un peu de ce que tu joues à l'orgue. Puis, tu as l'air à aimer ça. Puis, tu fais bien ça, je pense. Puis, je pense que tes amis te respectent beaucoup. Puis, ils voient que tu es un homme d'écoute. Puis, tu es comme habité par une présence. Puis, si j'avais rencontré à ton âge, quand j'étais plus jeune, si j'avais rencontré un prêtre qui avait des qualités comme toi, probablement que ma vie de prière, ma vie de foi, elle serait pas comme elle est aujourd'hui, présentement. C'est une confession qu'il me faisait, moi, là. Un homme qui avait 40 ans, puis moi, j'étais un petit gars de, ben, un jeune homme de 18-20 ans, là, tu sais. Puis cet homme-là, il jouait au Centre des Arts, là, c'est un artiste de réputation, là, tu sais. Puis qu'il me dise ça. Moi, j'ai pas dit un mot, mais j'étais bouleversé parce qu'il était en train de me dire des affaires qui me chicotaient. Puis ce gars-là, il va pas à la messe dimanche. Puis le Seigneur, il est drôle des fois. Hein? Il passe à travers des personnes qui nous déroutent. Parce que jamais j'avais parlé de ça à Jean-Paul. Bon. OK, c'est resté là. C'est resté là. Là, après mon bac en musique, j'ai décidé d'entrer au séminaire. Puis là, je savais pas comment dire ça à mes chums qui étaient en musique, qui n'allaient pas trop à la messe. Tu sais, les artistes, hein, bon. Je savais pas trop comment leur dire ça, parce qu'ils me voyaient déjà, je m'étais inscrit pour la maîtrise à McGill. J'avais eu une bourse pour étudier en musique à McGill. J'avais eu des bonnes recommandations de Jean-Paul. Mais là, je savais pas comment dire ça, que je m'en allais au séminaire. Dans le fond, c'était pour vérifier, voir si c'est vraiment ça que le Seigneur m'appelle à être. Alors là, je me souviens, j'ai dit ça à Mario, qui était trompettiste, qui était étudiant avec moi. J'ai dit, Mario, en septembre, j'irai pas à McGill. Ah non, non. Je vais aller... Puis là, je voulais pas lui dire que je pensais être prêtre. Parce que, hey, c'est pas in, c'est pas cool, c'est rien pantoute. C'est... Alors j'ai dit, ben, m'aller à l'Université Saint-Paul. Bon. Puis il me regarde, à l'Université Saint-Paul. Je veux dire, c'est à Ottawa? Oui, oui. Ben, on n'enseigne pas la musique, là. Ben non, je sais. Ben, c'est parce que, c'est ça, je veux étudier la théologie. Ah oui? Pourquoi faire? Puis là, c'est ça, là, tu sais. Puis là, tranquillement, il fallait que je dise, ben, c'est parce que je voudrais rentrer au séminaire. Ah, ben là. Ah, ben là. Là, tu vas rentrer au séminaire. Tu as du talent en musique. Qu'est-ce que tu vas faire, là? C'est une gang de vieux qui vont à la messe. Puis là, il n'y a pas de jeunes prêtres. Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps? C'est Laval. Qui t'a rencontré? Tu as eu à Laval le cerveau. Qui t'a mis ça dans la tête? Tu sais, c'est pas des choses que je parlais beaucoup avec mes chums, ces choses-là, hein? Tu sais, parce que c'est pas cool de parler de ça, hein? Puis tu sais, à ton âge, c'est pas facile de trouver quelqu'un parler de Jésus, hein? C'est pas facile. C'est pas évident. Hein? Mes chums savaient que j'allais à la messe le dimanche, mais moi je disais, ben, je vais à la messe le dimanche parce que c'est payant. Parce que je payais pour jouer de l'orgue. Dans le fond, c'était pas juste ça. C'était pas juste ça, il y avait plus que ça. Mais c'est pas facile, hein, de témoigner, hein. Pas facile, hein. Mais là, moi je me suis dit, c'est bon. Ben, je vais dire pourquoi je m'en vais au séminaire. C'est pour être prêtre. Puis là, ça n'a pas été... Puis là, j'ai vu où étaient mes vrais chums. Il y en a qui, vraiment, qui disent franchement, François, là. Jean-Paul a compris. Mais il voulait que je continue en musique. Mais, tu sais, quand t'es amoureux de quelqu'un... Êtes-vous amoureux, vous autres? Oui. Vous êtes-vous qui sont amoureux ici? Quand t'es amoureux de quelqu'un, en amour, là. Moi, j'étais en amour avec la musique. J'étais en amour, hein. Moi, c'était du 5 heures par jour devant mon piano, hein. J'en mangeais. Même des fois, je me cachais la nuit à l'université au département de musique, là. Les gardiens venaient barrer les portes. Moi, je me cachais derrière les portes pour pratiquer durant la nuit. Moi, j'ai fait ça, moi. Une chance que j'ai pas été poigné, hein. J'ai fait ça, moi. C'est parce que je voulais être un bon musicien. Je voulais être le meilleur. Alors, tu sais, c'est drôle, des fois, comment le Seigneur nous rejoint à travers des événements comme ça. Hein. Puis là, finalement, je suis rentré au séminaire pour voir si c'est vraiment ça que le Seigneur m'appelle. Puis il fallait que j'annonce ça à mes parents. Je me souviens, c'était un samedi matin. Mon père écoutait sa lutte dans le salon. Ma mère était en train de préparer le souper. Parce que là, c'était le seul temps où mes parents travaillaient pas. Là, ils se voyaient le week-end, là, tu sais. Là, ma mère faisait un bon souper le samedi soir pour tout le monde, parce qu'on ne voyait pas trop durant la semaine, tu sais, mon père travaillait. Bon. Puis là, j'ai quelque chose à te dire. Là, je savais pas comment. Jamais j'avais parlé de ça à mes parents, tu sais. Puis, maman, en septembre, j'irai pas à Montréal, à McGill. Oh non? Tu vas aller à Toronto? Parce qu'à Toronto, il y avait une bonne école de musique aussi. Non, je vais rentrer au séminaire. Je pense devenir prêtre. J'aimerais ça. Je pense que. Là, elle me regarde. Puis là, à lâche un cri. Royal! Ça, c'est mon père, ça. Là, mon père arrive. Puis, Jean-François, notre fils a quelque chose à nous annoncer, là. Puis là, je dis à mon père. Savez-vous ce que mes parents ont répondu? François, on le savait. Alors, cachez rien à vos parents, ils savent tout. Même des fois, ils n'ont pas l'air à savoir grand-chose, ils en connaissent plus qu'on le pense. Moi, j'ai tombé sur mon derrière. Puis là, dans le fond, c'était bon, parce que je me disais, c'est comme s'ils confirmaient quelque chose que je... Tu sais, des fois, on a besoin que les autres nous disent des affaires, tu sais, on pense qu'on est les seuls à flyer, mais tu sais, le Seigneur vient comme confirmer des affaires, hein. Puis là, mes deux sœurs, eux autres non plus, n'étaient pas surprises. Alors, je suis rentré au séminaire avec ça, dans mon cœur. Puis, au séminaire, il faut choisir un prêtre qui t'accompagne au niveau spirituel. On peut pas marcher seul avec Jésus. Hein. Tu sais, je pense que c'est pour ça que tu es ici l'après-midi. Hein. Tu peux pas marcher seul avec Jésus. Tu peux le faire pour un petit bout de temps, peut-être. Mais à un moment donné, tu as besoin de savoir que hey, ce que tu fais, c'est bon. Oui, c'est vrai, Jésus est agissant dans ton cœur, je le vois. Des fois, nous autres, on ne le voit pas. C'est les autres qui sont nos yeux, des fois. Hein? Hein, c'est ça, hein? On a besoin des autres, des fois. Hein? Alors moi, au séminaire, j'avais besoin au séminaire, on nous demande d'avoir un accompagnateur, comme ça. Puis moi, j'ai pris le prêtre le plus vieux, parce que je voulais le plus sage. J'ai pris le père Garot, Étienne Garot, qui était le plus vieux père du séminaire. Il est mort aujourd'hui. Il était pas jeune. Puis lui, il a été formidable. Jamais il m'a poussé. Jamais il a toujours été un homme d'écoute. Puis, avant qu'il meure, il a rêvé à moi. Puis là, j'étais pas prête encore. Il a rêvé à moi comme prête. Puis là, il y a un matin, je m'en vais le voir dans son bureau. Puis là, il me dit, François, je dis quoi, j'ai rêvé à toi. Ah oui? T'étais prête. Ah, puis c'était beau, oui, c'était beau, puis bon, ça. Mais il est mort avant mon ordination, malheureusement. Mais durant cette année-là au séminaire, j'ai senti que, oui, c'est ça que le Seigneur voulait. Mais à un moment donné, j'ai dit au Père Garot, « Père Garot, j'aimerais être 100% sûr que c'est ça que le Seigneur veut pour moi. » Puis là, il m'a dit, « François, tu ne seras jamais 100% sûr, parce que le Seigneur te veut libre. » Il va pas te forcer. C'est ça, l'amour. Parce que si tu étais 100% sûr, là, ou là, tu dis, là, j'ai plus le choix, c'est ça, ça y est, faut que j'avance là, j'ai plus le choix. Ben, si c'est ça, c'est plus de l'amour, puis t'es plus libre, tu seras une marionnette. Mais le Seigneur va donner des signes, et t'en as reçu des signes, François. Tes parents, Jean-Paul, le goût de la musique qui a nourri ta prière. C'est des signes, tout ça. Viens, suis-moi. Jésus qui t'appelle. Cette parole-là qui est vivante dans ton cœur. Ce sont des signes, ça. Hein? Il va t'en donner assez de signes, là, pour que tu fasses le saut. Mais il va falloir que tu sautes. Puis que tu risques. Que tu sautes. D'accord. Puis quand j'ai fait le saut, puis quand j'ai décidé à mon cœur, oui Seigneur, je me donne à toi comme prêtre pour te servir à mes frères et sœurs, pour notre Église et pour notre monde. Dans mon cœur, j'ai senti une paix. Pas une paix qui a duré 5 minutes. Pas une paix qui a duré une journée. Mais une paix qui s'est qui a demeuré. Ça ne veut pas dire que c'était clair et net, qu'il n'y avait plus des moments de difficiles. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Non. Mais une paix. Une paix qui revenait souvent. Et ça, c'est un signe, ça aussi. Le Seigneur nous parle comme ça. Alors, tu vois, ma vocation, moi, a été comme une fleur. Une fleur. Une belle rose. Une belle rose. Qui a germé en terre. Dans ma famille. Avec ma mère, quand j'avais 5 ans. Puis elle a grossi. Elle a grandi. Tranquillement. Sans faire de bruit. Puis elle s'est épanouie. Puis elle continue encore à grandir. Alors moi, ma vocation a été comme ça. Tranquillement. Puis quand je regarde en arrière, mes 44 ans, ben je peux voir qu'il y a eu un fil conducteur. Il y a un fil conducteur. Quand t'es dedans, tu ne vois pas ça. Ça prend un petit recul pour voir, ouais, ah, Seigneur, t'étais là. Ah oui, t'étais là. T'étais là. Puis là, c'est comme si là tu m'amenais là par la main, ben, tout en me laissant libre. Parce que je suis allé en musique. Je sais pas si ça l'a plu au Seigneur. Peut-être qu'il aurait voulu que je rentre au Seigneur tout de suite. Mais en musique, j'ai appris des affaires. J'ai appris à briser ma gêne, à jouer devant un public. J'ai appris à nourrir la prière par le silence, par la musique, par la beauté. C'est extraordinaire, ça me sert aujourd'hui. Quand je vais à l'école avec les enfants, je chante avec eux. Tantôt, j'ai chanté avec vous autres, c'est formidable, hein? Puis à la messe, on chante beaucoup. Pour moi, c'est une prière. Alors, je vois des signes du Seigneur à travers toute ma vie comme ça. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Là, j'ai beaucoup parlé, là, hein? Là, OK, là, vous n'êtes pas endormi, là, hein? Bon, ça va? Bon, OK, là, j'ai... Il y a des questions? Pas de questions. Donc, vous avez toutes les réponses. J'ai répondu à toutes vos questions. Hey, c'est le fun, hein? C'est drôle, hein? J'en ai pas parlé beaucoup, hein? Oui. Oui. J'en ai pas parlé beaucoup. Oui, j'ai des épreuves, oui. Je suis content que tu poses la question, Valmont. Quand j'étais en musique, j'ai rencontré une femme. Je pense qu'elle était amoureuse de moi, follement. Et moi, je portais en moi ce désir d'être prêtre. Il y avait quelque chose qui m'attirait, là, dans le ministère du prêtre, annoncer la bonne nouvelle, le style de vie, tout ça. Mais opter pour le célibat, ça a été difficile à ce moment-là. C'est quand moi, cette amie-là, je la voyais, elle était en musique, elle était en piano, très talentueuse, elle a une belle carrière en musique actuellement. Elle enseigne à l'Université de Montréal. Puis, je l'aimais, mais je voulais pas lui dire. Parce qu'il y avait d'autres choses que je voulais faire. Tu sais, je pensais à la prêtrise. Mais je faisais des choses pour elle que je me rendais pas compte. Savez-vous ce que je veux dire? Tout le monde autour de moi voyait que j'étais amoureux sauf moi. Ça se peut-tu, ça? Puis là, je faisais des choses pour elle bien spéciales, puis elle a pensé qu'elle était bien spéciale pour moi. Dans le fond, moi, j'étais pas très honnête envers elle. Puis là, à un moment donné, jusqu'au jour où j'ai dit, écoute, ça peut plus marcher. Je sens que tu vas aller plus loin, mais moi, je peux plus aller plus loin. Je vais être une bonne amie pour toi. Tu sais, tantôt, je disais, quand t'es amoureux, ouais, oui, j'ai pas fini ça tantôt. Quand t'es amoureux, moi, j'étais amoureux de la musique, hein. Quand je rentrais au séminaire, là, je pouvais pas passer 6 heures au piano puis être au séminaire. J'ai coupé la musique. Parce que je pouvais pas juste faire la musique pour le fun quand la musique c'était toute ma vie. Puis là, cette femme-là, je pouvais pas juste être amie avec elle quand je savais qu'elle était amoureuse de moi. On peut pas faire ça. Il faut qu'il y ait une rupture. Puis moi, je perdais une amie. Elle perdait un amoureux qu'elle n'a jamais eu, qu'elle aurait souhaité avoir. Ça, c'est une épreuve, c'est un choix, avant que je rentre au séminaire, juste avant. Ouais, il y a des moments où c'est difficile de vivre son célibat, c'est vrai. Il y a des fois que, il y a des samedis soirs que j'aimerais ça, avoir quelqu'un près de moi. C'est samedi soir ou le dimanche soir, quand je vois qu'après les messes, les jeunes parents s'en vont avec leurs enfants, puis moi, ben, je retourne seul dans mon presbytère. Il y a des soirs que j'aimerais ça avoir quelqu'un. Mais je me dis, être marié, c'est pas toujours facile non plus. Là aussi, il y a des épreuves, hein? Être avec le même homme, la même femme, c'est pas toujours évident. Ça prend beaucoup d'abandon, ça prend beaucoup d'amour. Mais j'ai des grandes consolations. J'ai des grandes consolations. Parce que comme prêtre, j'ai le privilège, j'ai la chance de m'émerveiller devant. Je touche à des moments privilégiés des personnes. Un baptême. Des jeunes fiancés qui viennent me parler de leur amour. C'est beau, hein? Ça me fait du bien d'entendre ça. Ça réchauffe mon cœur, ça. Puis quand ils arrivent deux, trois ans après avec leur premier bébé, puis me demandent de le baptiser, c'est une grande joie. Ou comme ce matin, célébrer le sacrement du pardon avec vous autres, c'est une joie pour moi. C'est pas juste toi qui reçois des grâces. Moi aussi, comme prêtre. Parce que je vois ce que le Seigneur fait de beau. Puis c'est dans les petites choses, hein. Des petites choses. Ouais, des épreuves, oui. Mais je pense que le Seigneur, moi je me dis toujours, aujourd'hui ça va mal. Ça marche pas. Je me sens seul. On dirait ce que je fais là, ça sert à rien. On dirait que je parle dans le vide. On dirait que ce que je fais, ça pogne pas. Je parle, puis ça colle pas. Puis là, on dirait là que, tu sais, bon, il me semble que ça sort quelque chose d'être prêtre aujourd'hui. Puis là, quand je pense ça, on dirait qu'au moment là, moi je dis, c'est le bon Dieu de minuit moins cinq. Le bon Dieu du minuit moins cinq. Au moment là où je pense que tout va mal, on dirait que le Seigneur vient là à la dernière minute pour m'apporter une consolation. Puis là, un moment donné, j'avais une grosse journée. Puis, ça marchait pas. Puis j'ai eu des funérailles. Puis il me semble que ce que j'ai dit dans l'homélie, il me semble que j'ai pas pu toucher le cœur des personnes. J'étais fatigué. Puis, ça allait mal. Puis, bon. Puis, ce soir-là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais comme prêtre? Il me semble que je suis pas un bon prêtre. Il me semble que, bon. Le lendemain matin, je reçois dans mon courrier une lettre de quelqu'un qui m'a dit, François, merci d'avoir été avec moi dans mon épreuve quand j'étais à l'hôpital, ta, 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 ta. Puis, oh, merci Seigneur. C'est un clin d'œil que tu m'envoies pour me dire de continuer. Que même si des fois je vois pas le fruit de mon travail, c'est toi qui es à l'œuvre dans le secret. Si j'avais un enfant, tu veux dire pas marié? Oui. Mais là, je me suis en. OK. Ouais, c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question où on peut se sentir un peu tiraillé. Hein? Ouais. Moi, j'ai un copain qui a été marié, qui a des enfants. Mais lui, dans son cas, sa femme est décédée. Alors lui, il est veuf. Alors ça veut dire qu'il était libre. Hein, il était libre. Hein? Il n'y a plus de divorce, là, il est libre. Il est veuf. Sa femme est décédée. Puis il était à la retraite. Ses enfants étaient mariés, puis il était même grand-père. Puis il a pensé à devenir prêtre. Puis il est prêtre aujourd'hui pour notre diocèse. Ouais, tu le connais probablement. Ouais, tu vois. Mais dans le cas que tu me partages, ouais, c'est sûr, c'est une grande souffrance, hein. J'aimerais pas être dans cette situation-là. Ça va être douloureux, hein. Le fait d'avoir vécu un mariage, d'avoir déjà fondé une famille, puis de vivre un échec, un divorce, de sentir que peut-être que Bon, tu vois, pour l'Église, le mariage, sacrement, c'est pour la vie. C'est pour la vie. C'est pour la vie. Ben même si j'avais pas eu d'enfant, tu vois, le mariage, c'est pour la vie. Ouais. Il y a des situations où on peut déclarer le mariage nul. Tu vois, oui. Ce que j'ai peut-être pas saisi, oui.
Si elle a un enfant, elle demande, est-ce qu'elle peut devenir...
Oh, l'enfant? Ok, supposons que j'ai eu un enfant, je n'ai pas marié, puis plus tard je deviens prêtre. Je pense pas que c'est un empêchement, ça là. Non, c'est pas un empêchement. Écoute, être prêtre là, écoutez, moi là, si mes deux sœurs étaient ici là, à te gérer des affaires, waouh, t'as fait ça comme prêtre, ouais. Tu sais, j'ai pas toujours été un enfant de cœur, moi là, tu sais. J'ai vécu moi aussi. Tu sais, j'ai une blonde, tu sais. J'ai fait peut-être des choses qu'il fallait peut-être pas faire, mais ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Puis ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ma vie, tu sais, Dalmont parlait des épreuves tantôt, j'ai vraiment senti que le Seigneur m'appelait à la prêtrise, pas parce que j'étais meilleur que les autres, pas parce que j'étais pur, puis pas parce que j'avais un dossier clean. Ben, si c'est ça que le Seigneur veut, ben, je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de prêtres, puis je suis pas sûr qu'il y aurait bien du monde dans les églises non plus. Puis quand je regarde Jésus dans l'Évangile, les 12 apôtres, ben, étaient pas tous clean, là, tu sais. Hein? On veut dire, wow. Jésus a pris un gars qui doutait, Thomas, qui doutait, pas sûr qu'il est vivant, s'il est vivant, je veux le voir, je veux le toucher, pas sûr, moi, c'est bon. Ben, tu parles de branleux. T'as Judas, ben, lui, Judas, c'était le cash. Moi, je veux de l'argent, moi, le trahir, bon, c'est pas drôle, hein? Bon, puis Pierre, il est bien fin, Pierre, mais Pierre qui... tu connais-tu ce gars-là, toi, Jésus? Non, je connais pas ce gars-là, moi. C'est pas drôle, Jésus, hein? Mais Jésus, il comptait sur ces gens-là, pareil, il les aimait pareil. Puis même moi, avec mon cœur, puis moi, je crois au pardon. Ben si j'avais eu un... Puis pas parce que j'ai fait une erreur dans ma... Ben, une erreur. Avoir un enfant, c'est pas une erreur. C'est pas le fait d'avoir un enfant qui est une erreur, là, tu sais. Un enfant, c'est un cadeau. Mais dans ma vie, ben, j'ai peut-être fait des choses qui étaient peut-être pas correctes, mais le Seigneur est avec moi là-dedans, puis m'a accompagné là-dedans. Non, si j'avais eu un enfant, ben j'aurais pris soin probablement, sûrement. Puis si j'avais l'appel pour être prêtre, ben je suis sûr que mon évêque m'aurait accepté. C'est pas un empêchement. Ben c'est sûr que je serais pas un enfant de 5 ans là, tu sais. Non. Non, je pense pas, non. En ce moment-là, c'est un adulte, hein. Il y a 18 ans. Alors, je pense que moi aussi, je suis un adulte. Je suis libre, hein. Oui, c'est sûr, hein. Mais c'est sûr que je lui en parlerai avant, hein. C'est sûr, hein. C'est sûr, hein. Oui, c'est sûr, hein. Mm-hmm. Oui. Es-tu déjà, 2 heures, déjà? J'ai-tu parlé si longtemps que ça? Êtes-vous fatigué? Voulez-vous vous lever un peu, non? Ça va? Non?
Ok. La question, c'est, je ne sais pas s'il y en a parmi les autres, vous avez déjà vu Jean-François célébrer la Sainte-Eucharistie. Je veux que tu nous dises, parce qu'il y a bien des jeunes, puis même moi, des années passées, aussi, je suis à la messe plate. Puis, c'est quel moment dans la Sainte-Eucharistie, dans la consécration, quel moment pour toi, là, où est-ce que tu peux dire que tu sens vraiment là, la présence là, de Jésus, ou que tu sens que tu es envahi là?
Ah, Valmont, tu me poses des bonnes questions. Il y a plusieurs moments, je pense. Je pense qu'il y a plusieurs endroits. C'est sûr que lorsque je dis les paroles de Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang, que Jésus se sert de moi. hein, se sert de moi, se sert de Jean-François qui est un pécheur. Moi aussi, je célèbre le sacrement du pardon, hein. Hein, je rencontre un prêtre, moi aussi, hein. Je me confesse pas à moi-même. Hein, je suis pas prêtre pour moi, je suis prêtre pour les autres. Alors, faut que je vois un prêtre, moi aussi, hein. Je suis au service pour les autres, je suis pas au service pour moi-même, hein. Ouais, quand je dis les paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang, puis, Seigneur, tu as besoin de moi, Jean-François, c'est extraordinaire que tu as besoin de moi, c'est extraordinaire, moi qui est un pécheur, hein. Ouais, ça c'est un moment que je trouve émouvant. Un autre moment, tu vas rire peut-être Valmont, c'est quand, c'est le moment de la communion, quand je donne la communion, puis quand je vois les gens s'avancer, puis qu'ils me présentent leurs mains pour recevoir le pain de vie, le corps du Christ, Jésus ressuscité dans le signe du pain, hein? Jésus qui se donne à nous comme nourriture. Puis que là, je vois toutes ces mains-là. Il y a des belles mains, des mains qui sont propres, des mains avec des beaux ongles. Il y a des mains qui sont tremblantes. Tu as des mains qui sont peureuses. Si je donne le style, pouf, la main, c'est bon. Tu as des mains qui sont d'enfants. Tu as des mains, je sens qu'elles ont souffert, ces mains-là. Des mains qui sont vieilles, des mains qui sont ridées. Des mains qui ont travaillé la terre, hein? Des mains, des fermiers, des mains qui, bon, c'est beau, c'est émouvant, hein? C'est toutes ces mains-là, c'est tous ces cœurs-là que Dieu appelle à sa table, hein? Des mains jeunes comme les tiennes. C'est magnifique, ça, hein? Moi, je trouve ça émouvant, hein? À un moment donné, je pensais à ça, là, puis j'ai pensé à pleurer. Quand t'as pleuré en donnant la communion, puis là il y a quelqu'un qui m'a dit après la messe, ah, oh, il était beau le chant de communion, hein, il était émouvant, hein. J'ai dit oui, sûrement que c'était émouvant, ouais, sûrement que c'était un beau chant. Mais c'était juste de voir les mains. Puis moi j'étais curé à la paroisse Saint-Charles à un moment donné, hein. La paroisse Saint-Charles, c'est une paroisse je vais dire extraordinaire, mais tu sais, tes paroisses sont extraordinaires, mais celle-là était particulière parce que Saint-Charles, il y a une section de la paroisse Saint-Charles, il y a des gens qui sont très pauvres. Très pauvres. C'est peut-être un des secteurs les plus pauvres d'Ottawa. C'est peut-être le quartier le plus pauvre. Mais à côté de ça, tu as Gérard Cliff. C'est les riches. Puis, à un moment donné, puis là, ils viennent à la messe, hein, des ambassadeurs, des jeunes, des diplomates. Puis là, il y avait monsieur et madame Intel, que je savais qu'ils sont sur le BS, puis ça marche, puis ils ont des enfants, puis ça marche mal, puis la chicane, puis il y a la drogue, puis bon. Puis à côté, il y a monsieur Intel qui arrive en Cadillac avec son chauffeur. Le monde. Puis à un moment donné, moi, j'ai dit dans la zone de Mélie, nous autres, ici, là, à Saint-Charles, on a une paroisse extraordinaire. Est-ce que vous réalisez que sous un même toit, on est rassemblés? On est tous égaux ici ce matin à cause de Jésus. Parce que Jésus, il regarde pas juste nos mains, il regarde nos cœurs. On a tous un cœur qui a faim et soif d'aimer. Là, tout le monde me regardait, hein. Mais c'était beau. Puis moi, j'étais très ému de voir ça, hein. Très ému. Hein. Ouais. Ça, c'est un autre moment, ce que j'ai des moments de que j'ai vécu comme prêtre. Ouais. Ben, écoutez, moi, je sais pas si, en tout cas, je sais pas si je t'ai rejoint dans mon témoignage. C'est mon témoignage, c'est mon petit bout de vie à moi. Mais, c'est mon histoire sainte. Quand je dis sainte, là, comprenez-moi bien, là, hein. C'est pas une histoire pure, là, puis sans tache, là. Mon histoire est sainte parce qu'elle est habitée de Dieu comme la tienne. Ton histoire est sainte parce que Dieu est avec toi. Puis Dieu est en train d'écrire quelque chose de beau. Des fois, on ne le voit pas, ça. On a tous une histoire sainte. Puis moi, je vous ai partagé un petit peu la mienne, mais toi aussi, tu as une histoire sainte. Puis, en tout cas, moi, je veux te dire merci de ne pas avoir ronflé, de ne pas avoir tombé endormi. Puis, je te souhaite une bonne fin de retraite dans un amour qui est sans frontières.